Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi.
Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro.
Génial.
Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison.
Top Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile.
L'XPS 12, PC et tablette.
Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr?
Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère?
Ou pas.
Voir modalité sur Dell.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est demain qu'auront lieu les célébrations du 69e anniversaire du débarquement. Franck Ferrand a choisi de marquer l'événement d'une manière inattendue. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Inattendu en effet, puisque nous allons évoquer le débarquement de Normandie, ce jour J du 6 juin 1944, à travers la vision qu'en ont eu les Français. Vous savez, cette poignée de Français du commando Kieffer.
On parle peu justement de ce commando Kieffer et encore moins de son commandant Philippe Kieffer.
Eh bien, si vous voulez, nous allons essayer de compenser cette lacune en compagnie de nos deux invités, qui sont de grands experts de l'événement.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Moi, l'intention de minimiser le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, la fameuse opération Torche le 8 novembre 1942, ni l'opération Husky le 10 juillet 1943, c'est-à-dire le débarquement de Sicile, qui est très important et qu'on a parfois tendance à oublier, ni bien sûr celui organisé en Provence, nom de code Anvil Dragon, c'était le 15 août 1944. C'est du reste celui dont on parle bien injustement le moins. Mais par l'importance stratégique, par les conséquences directes, de même évidemment que par l'ampleur des moyens engagés, toutes ces opérations-là viennent dans les mémoires loin derrière le débarquement de Normandie, ce débarquement du 6 juin 1944, au point d'ailleurs que très souvent il suffit pour désigner ce dernier de dire le débarquement tout court. C'est le D-Day, le jour J qui restera dans la mémoire des peuples comme la plus grosse opération amphibie de tous les temps et tout simplement comme l'un des événements les plus importants de l'histoire contemporaine. La Seconde Guerre mondiale a basculé ce jour-là et même si l'Allemagne nazie était en grande difficulté, elle disposait encore d'un pouvoir de nuisance et d'une inertie d'autoconservation qui rendait particulièrement audacieux et difficile ce genre d'opération. Il y a quelque temps, l'excellent forum internet Le Monde en Guerre, dans le cadre de son magazine Estomac, me demandait quels étaient, à mon avis, les moments clés, les points d'inflexion, si vous voulez, de la Deuxième Guerre mondiale. D'évidence, un des principaux, le plus décisif pour ce qui est du front occidental, ce sont ces événements lancés le 6 juin 1944. Alors, on a tendance à leur propos à évoquer le débarquement de troupes américaines, britanniques et canadiennes. Et s'il arrive tout de même que l'on mentionne la participation au débarquement d'une poignée de Français, le plus souvent, on ne dit pas qui ils étaient, d'où ils venaient, dans quel cadre ils débarquaient. Je ne parle même pas de leur destinée, qui se trouve généralement noyée dans la masse des soldats débarqués. Eh bien, aujourd'hui, nous allons procéder autrement, si vous voulez bien. Nous allons braquer tous les projecteurs sur ces héroïques membres du commando Kieffer, c'est-à-dire sur ces fusiliers marins créés par la France libre, spécialement sur les 177 jeunes volontaires intégrés à la première Special Service Brigade de Sa Gracieuse Majesté et qui se sont illustrés dès le jour J sur les plages normandes. Ce sont eux qui vont s'emparer du port et du casino de Ouistreham. On les appelle les commandos Kieffer parce que leur chef était le commandant Philippe Kieffer, français libre de la première heure, mais qui au départ était un banquier né en Haïti, à Port-au-Prince. Ce sont eux en particulier, et lui tout spécialement, que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Voici justement ce qu'écrit Stéphane Simonet à leur propos et à propos de ces toutes premières opérations. À bord des deux barges, bon nombre de commandos français peinent à trouver le sommeil, certains sont malades, d'autres anxieux, et puis il y a ceux qui ne veulent rien rater du grand spectacle qui s'offre à eux, plongés au cœur de cette formidable armada qui fait route vers la Normandie. Pour les hommes de Kieffer, la nuit de toute façon est de courte durée. Leur réveil a été programmé à 4h30. 30 minutes plus tard, encore assez loin des côtes, les barges coupent leurs moteurs. Mais le silence est rapidement brisé. Pendant presque 2 heures, les bombardements aériens prévus pour appuyer l'assaut des troupes sur les plages pilonnent sans relâche les défenses ennemies. L'artillerie navale, elle aussi, s'est mise de la partie dans un fracas étourdissant. Le D-Day vient véritablement de commencer.
Un extrait sur Europe 1 du générique du film Un pont trop loin, réalisé par Richard Attenborough. À tout de suite pour parler des Français du débarquement.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos deux invités aujourd'hui, Franck, sur Europe 1, Christophe Prime, qui est historien au Mémorial de Caen, et Stéphane Simonet, il a été directeur au musée du Mémorial de Caen. Il est l'auteur, vous le savez, de plusieurs ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale.
Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être ici pour nous parler de ce débarquement de Normandie en général, et puis surtout et principalement du rôle des Français. On peut dire, Stéphane Simonet, que ces 177 jeunes volontaires français passent un peu par pertes et profits. Très souvent, on les mentionne comme ça en fin de liste, en quelque sorte.
Ce qui est un petit peu normal, effectivement, c'est une goutte d'eau dans cette grande armada qui prend pied en Normandie. 155 000 hommes débarquent ce jour-là et 177 Français sont parmi ces gens-là. On les a un petit peu oubliés, puisque aussi leur fait d'armes...
0,1%, c'est facile.
C'est ça, voilà. Et leur fait d'armes n'est que le 6 juin 1944. Ils n'auront pas d'autres missions de cette importance après, au cours de la bataille de Normandie. Donc, ils ont à la fois cet honneur de débarquer les premiers en Normandie, mais aussi, du coup, cet inconvénient de n'être que cette force-là du 6 juin, de ne pas avoir de vie ensuite, alors qu'ils ont effectivement bataillé corps et âme pendant 100 jours après le débarquement.
On peut dire, Christophe Prime, qu'ils ont une valeur symbolique dans le dispositif qui a été prévu pour ce débarquement.
C'est vrai que numériquement, en général, on va dire qu'ils comptent assez peu au vu des forces. Après, je pense qu'il était aussi important justement que des Français débarquent. Après, savoir si les Alliés, du moins les Anglais ou les Américains, l'ont fait dans ce but, je pense qu'il s'agissait avant tout d'une force commando à part entière et qu'elle pouvait être utilisée donc le 6 juin comme les autres.
Alors cette force commando, nous allons tout à l'heure revivre sa formation, son entraînement, la préparation des opérations et puis bien entendu le déroulement des opérations. En un mot tout de même, quel a été leur rôle concret le jour du débarquement?
Alors ce jour-là, le 6 juin, ils ont une mission qui est articulée en trois points. Tout premier point, c'est de débarquer donc à Colville et de se rendre aussitôt maître du casino de Wisram, en tout cas ce qu'il reste du casino de Wisram, oui, qui a été rasé par les Allemands en 1942. Ça, c'est le premier objectif qu'ils doivent atteindre à 11h du matin. Donc, ils débarquent à 7h30, à 11h, ils doivent avoir terminé cette mission. Le deuxième point de leur mission, c'est de faire la jonction avec les parachutistes britanniques qui ont sauté dans la nuit du 5 au 6 juin sur Pegasus Bridge, donc sur le pont de Bénouville. Donc, ça, c'est le deuxième rôle qu'on attend d'eux. Et donc, cette jonction sera faite dans le milieu de l'après-midi. Et la fin de leur mission, c'est de prendre position à l'est de l'Orne, dans un village qui s'appelle Anfreville, et de là, de s'enterrer, comme s'enterraient leurs ancêtres pollués de la guerre 14-18, de prendre position donc dans ce village pour jouer un rôle de verrou pour empêcher tout renfort allemand de ce côté-là de l'Orne. Donc vous voyez, le 6 juin, c'est trois missions en une seule.
Alors on va voir justement que trois groupes ont été formés. Quel est le rôle personnel du commandant Kieffer dans ces opérations?
Le rôle qu'il a toujours eu depuis qu'il a formé cette unité, d'être un petit peu le père de ces jeunes gamins qui débarquent avec lui, qui ont 20 ans à peine.
Il pourrait être d'ailleurs leur père biologique,
puisque
lui il a une quarantaine d'années.
Il a une quarantaine d'années, exactement. Donc il joue le rôle de père, de pacha de l'unité, et donc de coordonner un petit peu tous ces éléments qui doivent débarquer en même temps et à qui on attribue des missions très différentes, à Wisram notamment. Donc il est là pour manager en fait son bataillon, tout simplement.
Il est blessé suite des opérations.
Oui, il est blessé à deux reprises à Wisram, donc le matin. Donc une fois au bras, une fois à la cuisse, ce qui ne va pas l'empêcher de continuer les combats. Et il aura donc énormément de problèmes de santé, ce qui va être pour lui une obligation d'être évacué donc le 9 juin à son grand regret. Il quitte ses hommes le 9 juin et les rapatrie en Angleterre à ce moment-là.
Alors quel a été le destin de ces hommes? Que sont-ils devenus dans la suite des opérations?
Donc ils sont abandonnés par leur chef le 9 juin, qui passe son commandement donc à son second, et ces hommes-là vont tenir vaillamment, comme ça, leur position, donc pas très loin de Caen. On est à quoi, une quinzaine de kilomètres de Caen, au nord-est de Caen. L'idée, c'est d'attendre que la bataille de Caen soit terminée. Caen devait être prise le 6 juin, au soir, elle sera libérée que le 9 juillet. Donc ils sont là en stand-by pour repousser les attaques allemandes avec les parachutistes britanniques, pour tenir en fait ce rôle de verrou. Et donc ils vont tenir cette position en gros jusqu'à la mi-août. Et à la mi-août, là, c'est l'accélération de la bataille, c'est le repli allemand général en France, suite au débarquement de Provence. Et à partir de là, c'est une course-poursuite. Donc les commandos vont courir après les Allemands, jusqu'aux boucles de la Seine quasiment, en tout cas dans le Pays d'Auge, en Normandie.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils vont devenir mythiques d'une certaine façon. Hein. C'est bien d'appartenir à cette courte liste, évidemment.
Ils sont mythiques parce que c'est une troupe d'élite. Donc ce sont des commandos. C'est une troupe qui débarque dès la première vague, donc les premiers, avec quelques minutes d'avance sur les Anglais. Et puis ce sont des Français, effectivement. Ce sont les seuls fantassins français, même s'ils sont fusiliers marins, à débarquer sur ces plages de Normandie le 6 juin 1944.
Combien sont-ils à avoir survécu ?
Assez nombreux. Alors effectivement, ce jour-là, le 6 juin, et même sur l'ensemble de la bataille, à la fin de la bataille de Normandie, il y a une vingtaine de morts. Il y en a 10 le 6 juin. Et après la guerre, ils vont se retrouver assez nombreux, en gros 130-140, hein, bien sûr. Mmh. Et ils vont vraiment se retrouver et commémorer en fait leur action dans les années 80.
Alors, le personnage qui nous intéresse, hein, le fondateur de tout ça, c'est donc Philippe Kieffer. On a vu qu'il avait été blessé, qu'il est donc nettement plus âgé que ses hommes, hein, il a une quarantaine d'années. Mmh. D'où vient-il ? Quelle a été sa vie jusqu'ici ? Comment s'est-il retrouvé à la tête de ces commandos ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Avec nous parlons donc du commandant Kieffer, alors qu'il n'est pas commandant au départ, de ce Philippe Kieffer qui naît en Haïti, nous expliquez-vous Stéphane Simon.
Voilà, donc Philippe Kieffer naît en Haïti, à Port-au-Prince. Sa famille s'est établie sur cette île en 1878 et le père de Philippe Kieffer donc, devient instituteur donc, à Haïti. Et Kieffer donc né en 1899, donc il a une jeunesse classique d'un enfant français déraciné à Haïti. Il fréquente les écoles primaires de la ville de Port-au-Prince. Puis il va faire ses études à Jersey, études secondaires à Jersey, et puis études supérieures à l'université de Columbia par correspondance. Donc il a une scolarité normale. C'est un gamin et un adolescent des plus très très physique, très très dynamique, très sportif. Il a un gabarit hors norme. Il fait plus d'1m90. C'est quelqu'un d'assez
oui, on voit qu'il est assez physique. Sportif. Voilà, il y a des photos sportif, dans le livre. Oui.
Et puis donc il lui-même fonde une famille, donc, se marie donc à Haïti dans les années 20. Et puis il va comme ça passer toute son enfance et son adolescence sur cette île avant que ça dégénère un petit peu sur l'île. L'île est sous emprise américaine depuis les années 20 et en 34 les États-Unis se retirent de cette île. Et à partir de là, on commence à voir les milices qui se mettent en place, la dégradation sociale, la faillite bancaire. C'est un banquier, Philippe Kieffer. Il travaille dans la finance.
C'est un homme de la finance. Voilà. D'ailleurs, il va lui-même épouser la fille d'un banquier. Enfin, il est dans ce monde-là.
Il travaille dans la banque de son beau-père. C'est quelqu'un d'assez compétent, qui tisse des réseaux assez solides au cours de ses différents déplacements. Il est fondé de pouvoir de pas mal de banques de la République d'Haïti. Et voilà, c'est un banquier qui est loin du coup de la chose militaire. Il échappe à son service militaire en 1918. Il devait être appelé en 1918, mais il ne peut pas rallier la France. Et puis il arrive en fin de parcours, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment... C'est un civil en uniforme, qui prendra l'uniforme en 1940. Et en 1939, il décide, pour protéger sa famille, en 1939, devant toute cette dégradation de la situation à Haïti, il décide de quitter l'île et de revenir en France avec femme et enfants, donc ce qu'il fait en avril 1939. En avril 1939, c'est vraiment une première coupure dans son parcours. Il s'installe en région parisienne et là, très vite, le couple va se séparer. Mmh. Le divorce est prononcé au mois d'avril. Et on sent qu'il a envie de faire quelque chose de sa vie, de repartir un petit peu à zéro une fois qu'il arrive en France.
C'est incroyable, parce que la coïncidence avec l'époque est tout à fait... c'est une sorte de bénédiction pour lui. C'est-à-dire qu'au moment où il est en train de se remettre en question complètement, c'est la déclaration de la guerre. Et c'est
Exactement, qui arrive très vite en septembre. Et donc, on sent qu'alors en avril, d'avril 39 à septembre 39, il retente une carrière un petit peu commerciale en France. Mais on sent très vite qu'il est attiré par l'armée, à tel point qu'il va donc devancer la mobilisation. Donc, on le retrouve à Bordeaux. Le 2 septembre 1939, dans un bureau de recrutement, il veut absolument intégrer l'armée de terre. Donc il va à son bureau de recrutement. Il s'est fait domicilier à Bordeaux pour ça. Et l'armée de terre, en fait, ne veut pas de lui. Alors qu'il a quand même des certificats militaires. Il a fait une préparation militaire en France dès qu'il arrive au printemps 1939. Il ne veut pas de lui. Et donc c'est la marine qui va l'accepter en octobre 1939. Donc il est versé dans la marine à ce moment-là.
Mais lui avait choisi l'armée de terre.
L'armée de terre. Il a choisi. En fait, je pense pas qu'il ait eu le choix. Il voulait vraiment s'engager dans l'armée, tout simplement, et parce qu'il a pas une vocation à être marin à ce moment-là. Il a 40 ans.
C'est ce qui, c'est quand même un certain âge pour commencer une carrière. Hein. C'est assez étrange.
Exactement. Mais alors, il faut savoir qu'il a tout plaqué. Du coup, il a plaqué son métier, il a plaqué sa femme, il a plaqué ses enfants qu'il voit régulièrement par un système de garde alternée, j'imagine à ce moment-là. Et à 40 ans, il se retrouve à vouloir faire quelque chose de complètement nouveau. Et donc l'armée, effectivement, qui commence un petit peu à recruter à ce moment-là, eh ben, c'est une porte d'entrée pour lui.
Alors quand on est dans la marine, la drôle de guerre, puis d'ailleurs les opérations d'invasion de mai-juin 1940, sont vécues au deuxième plan, si je puis dire.
Alors effectivement, celui il se retrouve dans la marine, dans un état-major comme interprète, parce que là où il est très fort, c'est qu'il parle plusieurs langues. Il parle anglais, il parle espagnol, il parle créole.
Héritage de la finance et de sa vie un peu cosmopolite.
Donc, voilà, donc il rejoint ce poste d'état-major comme officier interprète, donc de réserve en plus, vu son âge. Et donc, c'est tout ce qu'il voulait pas. Il voulait, lui, être dans la marine et dans l'armée pour avoir un rôle actif, acteur de la guerre. Et il se retrouve dans une situation assez passive d'homme de bureau. Donc il va ronger son frein au gré des affectations et on va le retrouver assez rapidement en mai 40 dans un état-major à Cherbourg où à partir de là il va assister effectivement à toute cette débandade de l'armée française, à l'épisode de Dunkerque, donc quand le corps expéditionnaire britannique
rembarque tout ce qu'il peut de ses soldats.
Et donc il va ainsi comme ça assister passivement donc à cet épisode assez dramatique de la guerre. Et les coïncidences encore une fois font qu'il va réussir lorsqu'il est à Cherbourg à rallier un petit peu le Cotentin, à être dans le Cotentin. Et là, on est en juin 40, les Allemands sont aux portes de la Bretagne, aux portes du Cotentin, et ils sentent bien qu'il faut vraiment qu'ils quittent cette région.
Et donc, quand on est dans le Cotentin, et qu'on est marin, qu'il faut quitter, ben, il s'en va en Angleterre. Mais
il faut arpenter les ports pour chercher effectivement une embarcation capable de quitter la région, quoi. Kieffer file vers l'Angleterre, mais effectivement, ce n'est pas son objectif au départ.
Néanmoins, vous allez voir qu'en Angleterre, il va faire quelques étincelles.
Franck Ferrand, sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Précisément au cœur de l'histoire du commando Kieffer avec vous Franck et vos invités sur Europe 1.
Ce Philippe Kieffer s'est donc engagé dans l'armée. Au départ, il voulait entrer dans l'armée de terre. Il se retrouve dans la marine. C'est d'abord la drôle de guerre, puis l'invasion allemande. Il est dans le Cotentin. Il finit par quitter la France, enfin le territoire français, pour rejoindre l'Angleterre. Et là, que fait-il en Angleterre? Alors, on ne peut pas dire qu'il s'illustre très rapidement non plus.
Alors, lorsqu'il débarque à Southampton, il fait comme tous les Français qui arrivent ici. Il est pris en charge par les Britanniques qui l'emmènent dans des camps de rassemblement. Que faire de tous ces Français qui fuient involontairement l'occupation allemande ou volontairement pour rejoindre De Gaulle? On les parque dans des grands camps. Et là, effectivement, ils tournent en rond, Philippe Kieffer.
Oui.
Alors, ils tournent en rond. Et malgré tout, donc, il signe son engagement dans la France libre le 1er juillet 40. Donc, c'est un des tout premiers. Hein. Les forces françaises libres sont créées le 1er juillet 40.
C'est un paradoxe quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il était, si je puis dire, dans la bonne arme au départ, et il se retrouve dans le bon camp tout de suite. Il est quand même comme si une sorte d'ange gardien le guidait vers le...
Alors oui, alors il sait aussi ce qu'il fait, parce que lorsqu'il arrive en Angleterre, il a quand même il a un pied à terre, sa sœur habite à Oxford, son beau-frère est déjà dans l'armée aussi britannique. Il a rencontré en 1939 à Paris une femme anglaise qui était en villégiature en France à ce moment-là et qui va épouser en 40. Donc il a aussi sa fiancée en Angleterre. Donc voilà, il arrive déjà et puis il connaît parfaitement bien la langue de Shakespeare. Il sait s'exprimer, il sait aller où il veut, quoi. Et donc il a entendu parler effectivement lorsqu'il est dans ce camp de rassemblement des Français libres d'un certain De Gaulle qui recrute une légion De Gaulle, une légion des volontaires français. Et donc il signe son engagement le 1er juillet 40, ne sachant pas s'il va avoir un commandement, dans quelle unité il va aller. Et pourtant, il y a des choses qui se préparent. Il y a des unités qui sont constituées, qui partent au Levant, qui partent en Afrique. Je pense aux deux bataillons de fusiliers marins. Mais il ne part pas avec eux. Il attend son heure. Et puis, de fil en aiguille, il passe les différents grades. Et il arrive en Angleterre matelot secrétaire. Et donc, il franchit les différents grades de la marine. Et on le retrouve officier de réserve, interprété du chiffre. Et donc, il va devenir l'interprète du commandant de la place de Portsmouth qui gère toutes les relations entre les Anglais et les Français libres.
Et puis d'un seul coup, si je puis dire, début 1941, alors là, il a une sorte de vocation. Il comprend quelle pourrait être son utilité dans l'ensemble de ses opérations.
Alors effectivement, mars 41, c'est le choc pour lui. Il découvre l'audace des commandos britanniques qui ont fait un très beau coup donc, sur les îles Lofoten en mars 41. Et donc là, il découvre.
En Norvège, là.
En Norvège, il découvre là une action commando qui a été un gros succès et il se dit pourquoi moi, Philippe Kieffer, français, je ne formerais pas aussi une unité française commando sur le même schéma, le même modèle tactique pour pourquoi pas aider les Britanniques à débarquer sur les côtes ennemies. Alors c'est vrai que Kieffer, il est au cœur d'un système où à la fois il voit une France libre qui se constitue. Il voit des unités commando britanniques qui sont formées dès l'été 40, donc il est entre deux feux là, donc il sent qu'il y a quelque chose à faire à ce moment-là.
Alors vous, de votre côté, vous êtes intéressé, Christophe Prime, au commando SAS. D'abord, il faut expliquer de quoi il s'agit concrètement.
Le SAS, donc le Special Air Service, donc c'est une unité qui à la base est constituée justement d'anciens commandos envoyés en Égypte et aussi eux qui rongeaient leurs freins. Et on a vu des personnalités comme David Stirling qui va créer justement une nouveau type d'unité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des commandos de marine, ce sont des hommes qui sont amenés à être projetés au départ par la voie des airs et puis ils vont démontrer une très grande polyvalence. Donc ils vont en Libye attaquer les aérodromes germano-italiens et c'est là qu'il y a aussi une passerelle avec justement les Français libres puisqu'on a justement un squadron de Français donc qui a opéré en Syrie, hein, les parachutistes du capitaine Berger qui vont rejoindre cette unité. C'est là que commence l'aventure des SAS français.
Alors revenons à notre Philippe Kieffer. Il sait maintenant exactement ce qu'il veut et il est en train de constituer sa troupe d'élite, en quelque sorte.
Alors, mars 41, il sait ce qu'il veut faire, effectivement. Simplement, il est toujours affecté dans un bureau à Portsmouth. Alors, il joue officieusement le rôle de recruteur. Il commence à repérer des volontaires qui pourraient constituer cette unité de manière très officieuse. Et puis, il demande carrément au mois d'août 41 de mettre fin à ses fonctions pour lui-même se former, pour devenir un chef de guerre. Parce qu'il, pour l'instant, il est juste officier de réserve. Et donc, l'état-major de la France libre lui donne le feu vert. Et donc, il va passer toute une série de stages en école anglaise lui permettant d'être officier fusilier marin, d'avoir des cours sur les armes, et des cours sur les opérations commando. Et donc, à partir de là, il se met déjà, lui, dans cette condition de chef de cette unité commando. Et les premiers véritables recrutements commencent en juillet 42. Donc, en décembre 41, il a le feu vert à la fois des Anglais et à la fois de Gaulle. Enfin, c'est plutôt Muselier à l'époque, de constituer cette unité, à la charge que ce soit lui qui se charge des recrutements, de l'entraînement, etc. Sur le plan administratif,
on a l'impression, entre nous soit dit, ça rappelle les structures militaires de l'ancien régime en France, où chacun constituait son régiment, l'équipait, l'entraînait, et quasiment lui donnait sa philosophie et sa mission.
Hein. C'est un peu ça, effectivement. Alors là, il bénéficie quand même d'aide logistique. Il dépend administrativement de la France libre, donc les soldes sont celles de la France libre, les soldes des soldats. Par contre, toute la logistique est britannique. Ils sont équipés par les Britanniques en termes d'habillement, d'armes, etc. et de même de terrain d'entraînement.
Ils ne sont pas souvent au feu.
Ah, pour l'instant, pas du tout.
Ouais.
Alors, ils s'entraînent dans des casernes, des fois sans armes, ils ont pas, ou un fusil pour 10, mais ils ont très peu de moyens pour commencer. Au début, c'est un peu du bricolage, effectivement. Et cette période va commencer en janvier 42. Et vraiment le baptême du feu, hein, ça va être lors du débarquement de Dieppe, en août 42, pour 15 d'entre eux en tout cas.
15 d'entre eux, hein, c'est un petit groupe qui va participer donc, à cette opération sur Dieppe. Alors, il est pas encore commandant, là, pour le moment.
Pas du tout, il est lieutenant de vaisseau.
Lieutenant de vaisseau, voilà. Il va recruter, il y a plusieurs vagues de recrutement, déjà dans la perspective de grandes opérations à venir.
Alors, la principale difficulté pour Kieffer, c'est le recrutement. Il va se battre pendant plusieurs mois pour essayer d'atteindre l'effectif normal que les Britanniques attendent.
C'est-à-dire environ 150 hommes.
150 hommes, au minimum, pour pouvoir partir en opération. Et donc, cet effectif de 150 hommes, il ne va pas l'atteindre avant avril 44. Donc, vous voyez, on est loin du compte. Au départ, il commence avec une vingtaine d'hommes. Donc, entre janvier et avril, 20 hommes vont être brevetés commando. Après le raid de Dieppe, on est à 80 soldats. Et voilà, ainsi de suite. Et la deuxième grosse vague de recrutement, ça va être l'été 43. Et la troisième vague, effectivement, ça va être en avril 44. Où là, on a une cinquantaine de volontaires qui viennent s'amalgamer à son unité.
Ce qui veut dire que là, maintenant, ils sont environ 170. On comprend pourquoi ils vont se trouver à être 177 au moment du débarquement de 1944. Alors, dans un instant, on en vient aux derniers préparatifs et aux ultimes entraînements.
Thank you.
Vous avez peut-être reconnu sur Europe 1 un extrait de la bande originale du film Le jour le plus long, réalisé par Ken Anakin, une musique signée Maurice Jarre. A tout de suite sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec une émission consacrée cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 14h aux Français du débarquement, Franck.
Tous les hommes de Kieffer sont maintenant rassemblés, écrivez-vous Stéphane Simonet dans cet ouvrage publié chez Talendier qui s'appelle « Commandant Kieffer, le français du jour J ». Tous les hommes de Kieffer sont maintenant rassemblés, tous se sont entraînés, le plus souvent séparément. Il est alors décidé le 23 mars 44 de les envoyer ensemble au nord-est de l'Écosse, à Nairn. Et pour connaître l'endroit, je peux vous dire que c'est pas du tout réjouissant comme région, pour un exercice général de débarquement destiné à mettre au point les dernières consignes en vue d'une grande opération à venir. Après un voyage de 2 jours, les Français arrivent enfin à destination. Le 25 mars, après avoir touché l'équipement de guerre complet, nous embarquons pour l'Écosse, écrit-il. Arrivons à Inverness le soir du 26, au nord des îles britanniques, et nous installons dans un camp. Il y a beaucoup de troupes dans le pays, sur le pied de guerre aussi, et l'exercice projeté sera important. Embarqué le 28 mars, écrivez-vous sur une barge de débarquement qui les conduit vers une plage après 2 jours et 3 nuits passées à bord, les commandos français se préparent à l'exercice de débarquement prévu le 31 mars. À 1h30 du matin, le débarquement s'effectue dans des conditions assez réalistes, avec de l'eau jusqu'au ventre et dans la fumée. Nous attaquons et naturellement prenons nos objectifs. Bah oui, pour l'instant on est à l'exercice. Le plus dur n'est pas fini. Nous prenons la formation de marche et couvrons une distance de 20-25 km. Avec notre équipement sur le dos, des colonnes de chars nous dépassent dans un tonnerre. Le lendemain, écrivez-vous, 1er avril 1944, les commandos français sont rassemblés pour rencontrer celui dont ils entendent le nom depuis plusieurs jours et qui va devenir leur chef, le colonel Robert Dawson, le patron du numéro 4 commando. Celui-ci, le commando number 4, celui-ci leur annonce officiellement leur intégration à son commando franco-britannique dans un délai de 15 jours. Les indices d'un débarquement prochain apparaissent alors très clairement. On est dans cette période à la fois passionnante et sans doute très angoissante pour ceux qui la vivent, de l'incertitude de l'issue. On ne sait pas quand tout ça va déboucher.
On ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas où. Donc effectivement, on sait que quand même ça va être en France. Effectivement, la décision a été prise entre Cherbourg et Le Havre. Mais on n'a pas encore les plages exactes. Ce grand exercice en grandeur réelle qui est fait effectivement fin mars 1944 donne des premiers signes. Et il est temps que ces signes arrivent parce que ce sont des hommes qui ont été sous-employés jusqu'à présent. Alors certains d'entre eux ont fait des raids. Donc on a parlé du raid de Dieppe. Certains d'entre eux ont participé à des raids nocturnes sur les côtes de la France durant la nuit de Noël 1943-1944. Donc voilà, mais le baptême du feu, il est encore à venir pour certains. Certains n'ont toujours pas tiré une cartouche sur un ennemi. Donc,
c'est ça.
Avril 44, il est temps. Il est temps parce que Kieffer a eu deux grosses difficultés. C'est d'atteindre cet effectif, puis surtout de maintenir le moral des troupes. Beaucoup de ces soldats ont quitté l'unité avant le débarquement. Ils ont été rejoindre le BCRA ou les SAS, justement, parce que ces hommes-là n'étaient pas employés au combat. Et donc, là, il est temps, effectivement. Et avril 44, ça s'accélère. Et on sent que l'heure du débarquement approche.
Du côté des SAS, si je vous ai bien lu, on a l'impression que les préparatifs sont mieux organisés, en quelque sorte, qu'on sait mieux ce vers quoi on s'achemine.
Ça se prépare déjà dès la fin de l'année 43, c'est-à-dire que les SAS français vont rejoindre l'Angleterre et ils vont être rejoints à leur tour par les Britanniques en janvier 1944.
Les commandos SAS dans la Seconde Guerre mondiale de Christophe Prime, c'est également chez Talendier. Alors début mai, nous revenons à Kieffer et à ses hommes. Alors ils sont une poignée, on a compris, ils sont 170 et quels, 177 même en fait. On les réunit dans un camp. Alors ça, c'est tout. Je parlais tout à l'heure d'angoisse et d'incertitude. C'est les fameux camps secrets. Et puis on est là, on est parqué, on s'entraîne comme on peut et on attend.
Alors on s'entraide comme on peut et puis surtout on découvre les objectifs qu'on leur a assignés, donc notamment des cartes anonymes leur sont présentées, des photographies aériennes leur sont présentées qui montrent un petit peu le futur secteur du débarquement. Donc tout ça se passe dans le plus grand des secrets. Effectivement, ce sont des camps américains, le camp Titchfield est un camp américain gardé par des MP. Donc interdiction de sortir, pas de permission, pas de courrier. Et malgré tout, donc c'est une ville dans la ville, hein, donc ce grand camp effectivement, et les hommes là se préparent, fourbissent leurs armes, etc. Et la petite anecdote, c'est que parmi les Français de Kiefer, certains ont reconnu les côtes normandes, parce que dans ces hommes, il y a beaucoup de Bretons et beaucoup de Normands, et certains d'entre eux ont reconnu le double estuaire de l'Orne. Mmh. Certains y ont passé des vacances, certains y ont été marins, donc ça, il y a quand même des fuites. À tel point d'ailleurs que les Français...
Ils parlent entre eux, bien entendu,
parce qu'ils ne parlent même que de ça. Et le fait de débarquer des gens en France, en Normandie, alors en plus là, entre sur Colville et Ouistreham, effectivement, ils ont tout de suite reconnu, à tel point qu'il y a un rappel à l'ordre des Français, de la part de Lord Lovat et de Dawson et de Kiefer, qui fait effectivement arrêter de divulguer le point de chute du débarquement dans ce secteur-là britannique. Donc voilà, donc les hommes se découvrent leurs objectifs à ce moment-là, et puis effectivement découvrent aussi leurs camarades de combat, qui seront ceux du numéro 4 commando, et le fameux colonel Dawson, qui parle un français parfaitement, et je pense que le duo Kiefer-Dawson...
Dawson, faut jamais oublier, oui, bien
effectivement,
sûr.
Ça a fonctionné, effectivement, parce que c'est deux hommes qui s'appréciaient mutuellement.
Le 5 juin, c'est l'embarquement.
Alors, le 4 juin, c'est l'embarquement, puisque effectivement le débarquement est prévu le 5.
Au départ, ça devait être le 5, on sait.
Effectivement,
ça,
oui. les gars partent et puis ils rentrent, quoi. Ils rentrent effectivement en mauvaise condition.
Trop mauvais temps.
Donc ils retournent dans leur camp le 5 juin. Et donc, le 5 juin, à nouveau un départ dans l'après-midi, effectivement. Et donc là, les Français gagnent le petit port de Warchau. Et donc, ils embarquent directement sur leur barge de débarquement.
Ils n'ont que deux barges, hein, ce qu'il faut préciser.
Alors, ils ont deux barges, effectivement. Ce sont les plus petites embarcations utilisées pendant le débarquement. Ce sont les LCI Small, donc Landing Craft Infantry Small. Et donc, les Français sont répartis en deux groupes, à peu près 90 bonhommes sur chaque groupe, sur chaque barge. Et ils vont traverser donc, les 110 km qui les séparent de la Normandie à bord de ses barges, donc directement à fond de cale. Donc dans une situation assez inconfortable, tandis que le gros des troupes sera transbordé au large des côtes normandes sur des plus petites embarcations. Donc là, ça faut quand même le souligner parce que ça jouera aussi un rôle sur l'état de forme de certains des commandos qui vont débarquer déjà assez malades.
Là, on leur a bien entendu donné exactement leur mission et chacun sait ce qu'il a à faire à partir de ce moment-là.
Alors, les officiers savent parfaitement ce qu'ils doivent faire. Les hommes de troupes et de rang ne savent pas encore trop où ils vont débarquer, hein, mais les officiers le savent parfaitement. Et il y a effectivement trois missions principales lorsqu'ils ont pris pied sur la plage. C'est une fois débarqués, de courir en haut de la dune sans s'arrêter, sans même relever les commandos qui vont tomber à leur côté blessés. 200 mètres dans les terres, de poser leur sac à dos, donc dans un point de ralliement. Et à partir de là, répartition en trois groupes avec comme objectif la prise en tenaille du casino de Ouistreham.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous retrouvons Franck jusqu'à 14h sur Europe 1 avec ses invités pour parler des Français du débarquement.
Alors là, cette fois, nous sommes dans, c'est vraiment le cas de dire, au cœur de l'histoire. Nous sommes dans le feu des opérations. Le commando, enfin les 177 jeunes volontaires français sous les ordres de Philippe Kiefer viennent de débarquer. Donc ils vont accomplir leur mission, et brillamment, disons-le.
Voilà, ils ont un timing assez serré, hein, donc 7h30 effectivement débarquement, 8h ils se regroupent au sein d'une ancienne colonie de vacances, dans les ruines de ce qu'il reste de ces colonies, ils posent leur sac, et à 8h les voilà partis donc à la conquête de cette fortification qui est le casino de Ouistreham, qu'ils vont atteindre assez difficilement vers 11h du matin, puisqu'ils vont perdre énormément de temps dans les derniers mètres à approcher cette fortification. Ils vont laisser 10 tués quand même dans cette opération, 10 tués et à peu près une trentaine de blessés, ce qui fait quand même 25% de pertes, donc c'est assez énorme, un quart de la troupe de Kiefer monte à la perte. 1 sur 4. Et à partir de là, ils rejoignent le fameux pont de Bénouville, le Pegasus Bridge, et puis ensuite, en fin de journée, donc la position d'Anfreville, où ils vont donc s'enterrer au sens propre du terme, hein, creuser des tranchées et des trous d'hommes, le soir du 6 juin. Kiefer blessé par deux fois.
Alors oui, on l'a vu.
Oui, alors lui, il est blessé. Alors il dirige ses hommes tant qu'il peut jusqu'au 9 juin. Et là, le 9 juin, franchement, il a plus le choix. C'est quand même un risque d'amputation donc de ses membres. Et donc, il est évacué sur l'Angleterre. Il va avoir une très longue convalescence puisqu'il retrouve la Normandie le 16 juillet 1944. Il retrouve ses hommes le 16 juillet 1944, des hommes assez fatigués.
Oui, que sont-ils devenus? Voilà, c'est ça.
Ah bah oui, ils ont été assez...
Ça a été, on oublie. On parle toujours du débarquement. On parle volontiers de toutes les opérations de ravitaillement, etc., de l'Europe à travers les ports artificiels qui sont constitués peu à peu. Mais on oublie la bataille de Normandie elle-même.
La bataille de Normandie, effectivement, qui est très longue, alors qu'elle devait être courte au départ, parce que les objectifs étaient effectivement assez rapides. Quand devait tomber le 6 juin, elle tombe un mois plus tard. Donc cette bataille est lourde, elle est psychologique, notamment pour les Français. L'ennemi est quasiment invisible. Ce sont des patrouilles de nuit, ce sont des rixes, ce sont des embuscades, des snipers. Donc ça va durer comme ça jusqu'à la mi-août. Et à partir de là, c'est la course-poursuite. des Allemands, et donc il y aura encore quelques combats en Normandie. Et en septembre, l'ensemble de la troupe, Kieffer compris, revient en Angleterre pour se reposer.
Donc, Kieffer les a retrouvés à la mi-juillet, hein, c'est ça. Voilà. Et puis en septembre, alors là, nouvelle perspective.
Retour à la case départ, l'Angleterre, donc repos des troupes, reformation, on complète les effectifs, là on est à 230 hommes à peu près. Et là, nouvel objectif, c'est de débarquer donc à Flessingue, donc sur la presqu'île de Valkeren,
aux Pays-Bas,
donc pour à l'embouchure de l'estuaire de, enfin c'est pour déboucher l'accès au port d'Anvers. 1er novembre 44, deuxième débarquement des Français, autrement plus difficile que celui de Normandie, parce que là on est dans un terrain compliqué, en milieu urbain, avec des populations qui vivent encore dans la ville, et puis là c'est vraiment, les Allemands sont retranchés ici. Et Kieffer participe à cette opération, donc de novembre 44, décembre, et il va commencer maintenant, en janvier 45, à s'intéresser à l'après-guerre. Que faire de cette unité qu'il a formée de toutes pièces une fois que la guerre sera terminée? Et donc son travail, ça va être d'aller contacter l'état-major de la marine à Paris. Paris a été libéré au mois d'août 44, de faire en sorte de pérenniser cette unité. Et donc ça va être beaucoup de démarches administratives parce qu'il a envie que ça dure après la guerre. Hein. Donc voilà l'objectif de Kieffer. Donc il passe son commandement assez rapidement à son adjoint, à Lofi, Alexandre Lofi. Donc en mai 45.
Oui, lui, pour se dégager.
Et en avril 45, lui, il quitte le bataillon quasiment parce qu'il a été appelé pour siéger à l'Assemblée constituante, titre de compagnon de libération. Et il va entamer là une carrière politique une fois la liberté retrouvée en France. Notamment en Normandie, il va s'essayer à une carrière politique en 45 et en 46
Calvados,
au municipal, ouais. Voilà, au régional. Donc il sera conseiller général. Malheureusement, il va échouer aux élections régionales et devant cet échec, il va se retirer de la vie politique en 1946 pour entamer une troisième vie qui sera une vie d'officier militaire au sein de l'armée française, comme à Berlin dans une commission au titre des réparations, puis après à l'OTAN, donc à Paris, à Bruxelles et à Paris par la suite.
Il y a des survivants aujourd'hui du commando Kieffer?
Certains il y en a peut-être, très peu, il y a 12 survivants effectivement auxquels je veux rendre hommage, ils nous écoutent, 12 survivants de cette épopée qui ont aussi participé à cette aventure avec Kieffer, qui l'ont connu bien évidemment, qui ont débarqué avec lui le 6 juin 1944, le plus jeune a 87 ans, le plus âgé en a 99, donc vous voyez on a une palette assez large et ces commandos fréquentent encore quand ils le peuvent les plages normandes lors des cérémonies du 6 juin 44.
Oui, ils sont devenus évidemment les héros. Hein,
devenus les héros effectivement et puis il y a aussi les poilus de cette guerre maintenant.
Et les SAS, Christophe Rhum, qu'est-ce qu'ils sont devenus après le débarquement?
Oh, après le débarquement, eux, ils vont avoir une activité assez intense, puisqu'ils vont accompagner toute la libération de la France. Hein. L'ensemble de la brigade...
Et aller loin, hein, à l'est.
Hein. Oui, la Bretagne, la Vienne, la Vendée. Même au moment de l'opération Anvil Dragoon, justement, on a une partie du 3e SAS. Alors là, ça donne lieu à une histoire assez rancormolesque.
Dragoon, donc le moment du débarquement
voilà.
Vous avez
justement un peloton de jeeps qui débarque à Courseulles en Normandie et qui va traverser toute la France pour aller après à sceller les troupes justement qui remontent le long de la Nationale 6. Et ça, donc, c'est assez étrange, en fait. C'est un bracadabrant quand on connaît justement la situation militaire à ce moment-là. On traverse toutes les lignes ennemies en empruntant les routes secondaires. Et donc après, donc, ces fameux SAS vont être engagés notamment dans les Vosges, pour les Britanniques, vont être engagés également en Hollande, aussi dans les Ardennes, hein, en décembre 44, hein, pour essayer de colmater les brèches. Et puis, donc, ils vont terminer en Allemagne. Du côté des SAS français, ils vont être versés, donc, à la fin de la guerre, dans le deuxième RCP, qui va changer d'appellation. On va les retrouver en Indochine, au sein d'une demi-brigade SAS. Et après, donc, l'appellation SAS va disparaître. Mais aujourd'hui, donc, c'est le premier PIMA qui encore assure cette filiation avec cette unité d'élite.
Oui, d'élite, hein, ça reste un label. Évidemment, quand, dans le milieu militaire, quand on parle des SAS tout de suite, il y a cette dimension très prestigieuse. Les commandos SAS dans la Seconde Guerre mondiale de Christophe Prime, c'est chez Talandier. Et chez Talandier aussi, évidemment, de Stéphane Simonet, commandant Kieffer, le français du jour J. Nous avons vu à quel point ce personnage avait joué un rôle important dans la création d'un esprit de corps auprès de ses... Bon, ils ne sont pas très nombreux, mais on peut dire qu'ils ont sauvé l'honneur puisqu'ils étaient les Français du débarquement.